Mesdames, Messieurs, vous écoutez Radio Prague, programme en langue française, les informations avec Magdalena Segertova. La recherche scientifique sera désormais une des priorités du gouvernement tchèque. Le cabinet vient d'adopter une nouvelle stratégie scientifique élaborée par le vice-premier ministre chargé de l'économie, Martin Jan. D'ici 2010, l'État veut investir dans la recherche scientifique une somme relative à 1% du PIB, comparée à 0,6% actuel. Le projet de constitution européenne a été au cœur des entretiens ce jeudi à Helsinki entre la présidente finlandaise Tarja Halonen et son homologue tchèque Václav Klaus. « Je ne trouve pas que la constitution soit morte et enterrée », a dit à l'issue de la rencontre Tarja Halonen en réaction à l'opinion de Václav Klaus, pour qui le résultat des référendums français et hollandais est, je cite, « une victoire de la liberté et de la démocratie », a-t-il déclaré à Helsinki, sans oublier de présenter la prise de position pro-européenne du gouvernement tchèque. Selon les deux chefs d'État, il n'y a pas lieu de céder à la panique après le rejet de la Constitution en France et aux Pays-Bas, mais il faut agir. Les présidents ont également discuté de la période de transition pour les travailleurs tchèques, en Finlande aussi, période qui pourrait bientôt se terminer, mais tout dépend de la décision du Parlement finlandais. Les autorités biélorusses ont refusé de délivrer un visa au député tchèque Svatopluk Karaasek de l'Union de la Liberté, qui devait participer dimanche prochain à Minsk avec trois autres députés du Parlement tchèque à un concert de soutien aux opposants au régime Loukachenko. Selon Svatopluk Karaasek, il s'agit d'une décision politique liée à sa participation en automne dernier à une manifestation de l'opposition lors des élections législatives en Biélorussie. Le tribunal de Bucarest en Roumanie a condamné l'entrepreneur tchèque František Příplata à 8 ans de prison pour complicité dans un meurtre d'un leader syndicaliste, a informé l'agence de presse tchèque ČTK. Le plus important salon de l'automobile en République tchèque, Autosalon, a été inauguré ce jeudi à Brno, en Moravie du Sud. Quelques 300 entreprises de 14 pays y prennent part. Les marques américaines Cadillac et Corvette annoncent au salon leur arrivée sur le marché tchèque et l'usine TPCA, Toyota Peugeot Citroën Automobile, fraîchement inaugurée à Kolín, en Bohême centrale, y présente ses nouveaux modèles. Côté météo, ce jeudi, le ciel a été nuageux avec de belles éclaircies et il a fait de 18 à 22 degrés. Vendredi, le soleil s'installera sur l'ensemble du territoire. Le thermomètre marquera de 23 à 27 degrés. C'était les informations de Radio Prague. Bonne écoute de la suite de notre programme.
Faits et événements en République tchèque. Guillaume Narguet.
Bonjour et merci d'être fidèle à l'écoute de ce quart d'heure d'actualité que nous entamerons avec le non-néerlandais à la Constitution européenne. Nous verrons quelles sont les réactions à ce rejet en République tchèque. À Prague, la municipalité a enfin décidé d'intensifier sa lutte contre la publicité des services érotiques. Toujours dans la capitale, le premier baby box a été ouvert. Désormais, les mères tchèques peuvent y laisser leur nouveau-né si elles ne veulent pas l'élever. Dans la seconde partie de ce journal, enfin, nous poursuivrons avec la présentation de la semaine du développement durable qui se tient actuellement à Prague. Toute l'équipe de la rédaction française vous souhaite une agréable réception de nos programmes. Après les Français dimanche, c'était au tour des Néerlandais mercredi de rejeter en masse le traité constitutionnel pour l'Union européenne. À Prague, le résultat de ce référendum consultatif a été accueilli sans surprise. Tandis que le président de la République considère plus que jamais la Constitution comme un document mort, le Premier ministre Jiří Paroubek estime, lui, que le nom d'un autre pays fondateur de l'Union européenne n'est pas un drame et qu'il ne change rien aux positions du gouvernement tchèque. « Nous allons poursuivre nos efforts liés au processus de ratification », a affirmé le Premier ministre. Jiří Paroubek continue de supposer que le traité fera également l'objet d'un référendum en République tchèque. « Les citoyens néerlandais et français ne peuvent pas décider à notre place », a-t-il argumenté, tout en évoquant l'éventualité de demander une prolongation du délai de 2 ans initialement prévu pour la ratification lors du prochain sommet de Bruxelles le 16 juin prochain. Certains pays auront besoin de plus de temps, a expliqué le chef du gouvernement, qui n'exclut pas par ailleurs la possibilité de voir de nouveaux référendums organisés dans les pays où la Constitution a subi un revers. Pour le ministre des Affaires étrangères, Cyril Swoboda, qui n'a pas manqué de souligner que les Néerlandais étaient ceux en Europe qui contribuaient le plus par habitant au budget de l'Union européenne, la situation actuelle ne constitue pas non plus une raison de paniquer.
Ten výsledek samozřejmě není dobrý, nicméně je to velká výzva k obraně Evropy.
Bien entendu, ce n'est pas un bon résultat. Néanmoins, il constitue aussi une invitation à modifier l'Union européenne. Dans tous les cas, il s'agit d'une invitation à bien écouter ces messages en provenance de la France et des Pays-Bas, et ce afin de réfléchir aux nouvelles stratégies sur les prochaines démarches à mener pour réagir de manière adéquate.
Une vision des choses qui n'est bien entendu pas celle du président de la République. Depuis la Finlande, où il se trouve pour une visite de 3 jours, Václav Klaus a réagi à sa manière en lançant que le peuple européen avait prouvé sa force. Selon le chef de l'État, l'échec des référendums français et néerlandais ne signifie cependant pas qu'il faille tirer un trait sur l'Union européenne ou son processus d'intégration.
Já myslím, že lidé diskutují o tom, jestli tento pokus takto akcelerovat nenutným
způsobem. Je pense que cette tentative d'accélérer d'une façon qui n'est pas indispensable certaines démarches du processus d'unification s'est heurtée à un obstacle. Mais quant à savoir si l'institution appelée Union européenne doit exister, si au sein de celle-ci doivent être réalisées toute une série de processus rationnels, de tout cela, les électeurs, ni en France, ni aux Pays-Bas, n'ont pas du tout parlé. J'espère que personne ne ferme les yeux ni se bouche les oreilles. Après le résultat du référendum en Hollande, j'ai le sentiment que ce que j'avais déjà déclaré dimanche est aujourd'hui doublement valable. La Constitution européenne est un document mort. Si quelqu'un a pu interpréter le nom français comme n'étant qu'un accident, un épisode extraordinaire, aujourd'hui, il n'est plus possible de défendre cette interprétation. Il serait préférable de rediscuter de l'agencement de l'organisation des relations réciproques que nous tous qui vivons dans cette Europe souhaitons.
Alexis Rosenzweig nous a rejoint en studio pour nous parler des services érotiques à Prague. C'est en effet dans la capitale, mercredi 1er juin, qu'est entré en vigueur l'arrêt municipal interdisant la promotion des services érotiques. Dorénavant, la distribution de prospectus et les publicités pour les maisons de tolérance sont donc proscrites dans quasiment toute l'agglomération pragoise. Alors Alexis, quelles conséquences va avoir ce nouvel arrêté municipal pour les employés du secteur et pour les touristes de passage dans la capitale ?
Eh bien Guillaume, c'est difficile à dire, un jour seulement après son entrée en vigueur, quelles seront les conséquences exactes de cette nouvelle décision prise par la mairie de Prague. Son principal objectif était de faire disparaître les rabatteurs du centre de Prague. Avant de prendre son service mercredi soir, Francis, un Ivoirien qui est depuis 2 ans rabatteur dans la capitale, était un peu anxieux. Mais il explique qu'il va continuer avec de nouvelles consignes de ses patrons, qui craignent les lourdes amendes prévues par l'arrêté.
Bah, ce soir j'irai là. On va travailler, on va venir voir ce qui va se passer. Ouais, bien sûr. J'ai pas peur, j'ai tué personne, j'ai pas peur. Je vais venir. J'arrive, on me demande de pas travailler, je vais à la maison, c'est tout. C'est ce que je vais bien faire.
Et d'entre vous, il y en a déjà qui ont renoncé à faire ce boulot?
Ben, par rapport à la décision qui a été prise, non, je crois pas, parce que, ils renoncent, qu'est-ce qu'ils vont bien faire? Moi, je dis que c'est le truc un peu raciste, là, tu vois. Parce que là, tout le temps qu'on parle, on dit que c'est sûrement les lois qui travaillent dans les rues et tout. Mais parmi les lois qui travaillent dans la rue, il y a même des cacs, les fils du pays qui travaillent dans la rue. Ce n'est pas seulement les blacks qui travaillent dans la rue.
Le secrétaire du directeur de la police municipale, Ludwig Klema, s'est rendu sur la place Venceslas mercredi soir.
Ils
tentent de se couvrir avec des prospectus pour des discothèques ou pour des hôtels. Mais nous savons bien sûr d'expérience qu'il s'agit d'autres offres. Et les rabatteurs parlent de sexy girls pour éviter les ennuis. Ils vont faire l'objet de contrôles et il n'y aura aucun moyen pour eux de contourner cet arrêté. Marta Gutová est membre de l'association pour la Nouvelle Ville de Prague, une association qui lutte contre ce genre d'activité et leur publicité dans le centre-ville. Elle a assisté au premier contrôle mercredi soir.
C'est un changement radical. Bien sûr, les personnes qui proposaient ces services sont encore ici, on les reconnaît. À partir de maintenant, cela va uniquement dépendre du travail de la police pour qu'elle les empêche de distribuer leurs pubs ou les confisque.
Il faudra donc attendre encore quelques temps pour connaître l'efficacité des nouvelles mesures prises par la municipalité. Une chose est sûre en tout cas, l'ambiance sur la place Venceslas ne changera pas du jour au lendemain. Et éradiquer la publicité pour les services érotiques ne mettra pas fin à la prostitution clandestine ou organisée par les propriétaires de bordels dans le centre de Prague.
La première baby box, boîte à bébé où les mères qui le souhaitent peuvent déposer leur nouveau-né dans l'anonymat, a été installée symboliquement le 1er juin, date de la Journée internationale des enfants, au Gynzentrum à Prague, Robietin. Jarka Gisubilova pour plus d'informations.
La Fondation pour les enfants abandonnés, Estatim, a installé cette boîte à bébés anonyme afin d'aider les mères en détresse et de prévenir que les enfants indésirables ne soient pas tués ou abandonnés dans des conditions ne permettant pas leur survie. Le premier lieu de dépôt anonyme a été aménagé par l'hôpital privé Gynzentrum, dont le siège se trouve dans le 9e arrondissement pragois. Pour Ludwig Hess, directeur de la Fondation pour les enfants abandonnés, à l'origine du projet, cette baby box ne restera pas longtemps la seule. Notre fondation veut ouvrir une vingtaine de baby box dans le pays, mais puisque le ministère de la Santé publique n'est pas favorable à ce projet, elle négocie avant tout avec des hôpitaux privés. L'idée est d'installer une baby box à la clinique obstétrique universitaire de Prague 2 a en effet échoué après une année de négociations. Le ministère de la Santé publique était contre, en justifiant son rejet par des raisons législatives. Son existence légalisera le comportement irresponsable des parents. Ludwig Hess de la Fondation pour les enfants abandonnés estime quant à lui que tout le monde n'est pas capable de communiquer avec les institutions et organiser un accouchement sous X. L'anonymat absolu garanti à la personne ayant déposé l'enfant est le principal avantage des baby box. L'enfant ainsi né passera une courte période à la Fondation pour les enfants maltraités et après 3 semaines, il pourra être placé dans une nouvelle famille. Ailleurs dans le monde, des baby box sont un moyen courant pour sauver la vie des nouveau-nés indésirables. Les soins de ce genre ont progressé le plus en Allemagne, qui possède 67 baby box, et des lieux de dépôt anonymes existent également en Autriche, en Suisse, en Italie, en Hongrie et aux États-Unis.
Pour la 3e année consécutive, la République tchèque, sur le modèle français inauguré après le sommet mondial de Johannesburg en 2002, organise elle aussi sa semaine du développement durable. Organisée par l'ambassade de France en coopération avec le ministère de l'Environnement tchèque, cette semaine, qui a commencé le 30 mai et s'achève le 5 juin, propose de nombreuses conférences. Pour plus de détails, écoutons Zdenka Dobiachova, chef du bureau franco-tchèque dans le domaine de l'environnement, à cheval entre ces deux institutions organisatrices, au micro d'Anna Kubichta.
Cette semaine, il y avait cette conférence importante, comme je disais, sur la stratégie de Lisbonne qui s'est déroulée mardi au ministère des Finances, mais on traite des sujets très divers. Donc aujourd'hui, on est jeudi, c'est une journée scientifique. Ce matin, on parle de la science, l'éducation et le développement durable. Cet après-midi, on traitera le sujet de la santé, donc tout ce qui est accès à la santé, accès aux médicaments, mais aussi la réflexion qui est derrière le financement du système de sécurité sociale ou de l'assurance maladie.
On peut dire qu'on est à peu près au milieu de cette semaine du développement durable. Qu'est-ce que vous en tirez pour l'instant ?
Si je peux tirer quelques conclusions déjà des conférences qui se sont déjà déroulées, il y a 3 points que je relèverai qui sont très positifs. Pour nous, ce qui est important cette année, c'est l'intérêt grandissant des médias pour les sujets du développement durable. Deuxième chose, c'est l'intérêt des entreprises. On a réussi cette année à convaincre et à faire participer des entreprises privées. Donc le secteur privé se réveille de plus en plus à la problématique du développement durable et il s'efforce de participer à des événements de communication sur le développement durable, de soutien à ce concept et il propose des solutions concrètes à certains problèmes, par exemple environnementaux ou sociaux. Troisième chose qui est pour moi très importante, c'est l'intérêt des institutions tchèques de coopérer avec l'ambassade de France sur ces sujets-là et de promouvoir le concept du développement durable dans l'Europe.
Qu'est-ce que vous pensez qui motive des entreprises comme Carrefour ou Ondéo à participer et à s'engager ? Parce qu'on pourrait dire qu'il y a contradiction éventuellement entre leurs intérêts propres, économiques, et c'est ce qui est déjà d'ailleurs ressorti assez souvent quand on parle des 3 piliers du développement durable, qui seraient donc économie, équité sociale et environnement. Qu'est-ce que vous pensez qui peut les motiver en dehors d'une autopromotion, bien sûr ?
Je pense que les entreprises se réveillent de plus en plus à ce rôle qu'ils ont à jouer dans le cadre du développement durable, puisque le développement durable ne peut pas se faire sans le secteur privé. Le secteur privé fait partie aussi de la société civile, puisque dans les entreprises privées travaillent des gens qui sont aussi citoyens et qui ont des soucis pour l'environnement, pour la santé, pour le social. Les deux sont liés et on ne peut pas dissocier radicalement les deux. Bon, il ne faut pas voir les choses en noir et blanc, les entreprises comme quelque chose de mauvais et les ONG comme quelque chose de positif uniquement. Évidemment, des coopérations sont possibles et au contraire souhaitables. Il y a des entreprises qui essayent de développer des marchés comme dans le commerce équitable, comme l'entreprise Carrefour par exemple, qui ouvre maintenant des rayons commerce équitable. Grâce à la semaine, il y a aussi eu un partenariat en ce moment qui a été lancé. Il y a eu des contacts pris entre des associations tchèques et françaises sur le commerce équitable. Mais les entreprises prennent de plus en plus en compte la responsabilité qu'ils ont envers les citoyens et les consommateurs.
Ainsi se referment ces faits et événements. Merci de votre attention et restez en notre compagnie pour la suite de nos programmes.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres. Jarka Gregorova.
Adolescente, Lida Barova était beaucoup moins belle que sa sœur cadette Zorka. Pourtant, elle est devenue la plus belle femme du pays. Une beauté classique, sans défaut. Trop parfaite. L'actrice la plus célèbre en Bohême, dans les années 30, a connu les hauts et les bas de la gloire. Maîtresse du redoutable ministre nazi de la propagande et de l'information, Joseph Goebbels, bras droit d'Adolf Hitler, Lida Barova est devenue, après la guerre, victime de sa passion. Malgré une chute rapide du piédestal des stars, elle a tout de même réussi une belle carrière dans la cinématographie italienne et espagnole. Quoi qu'il en soit, il est certain que Lida Barova était sans aucun doute une excellente actrice et reste le symbole de la cinématographie tchécoslovaque des années 30. Ich würde Vienna slouchat, láska je půlnoční obloha, a loutný hlas svou lídeznosti mámí nás. La star est née à Prague, l'année de l'éclatement de la Deuxième Guerre mondiale. Son père, haut fonctionnaire de la municipalité de Prague, est un grand sportif. C'est un homme très distingué, cultivé, descendant d'une famille noble dont l'histoire remonte au XIVe siècle. La mère de Lida est une femme extraordinairement belle. Elle joue très bien du piano et chante admirablement. Dans sa jeunesse, elle caresse l'idée de devenir cantatrice. Il n'en sera rien. Elle reste femme au foyer à s'occuper de son mari et de ses deux filles Lida et Zorka. Lida entre dans le monde du cinéma à 17 ans. Elle est en première année du conservatoire lorsque le réalisateur Miroslav Krnjanski lui distribue le rôle important de Viktorka dans son film « La carrière de Pavel Čamrda ». Le film est un succès, mais l'actrice débutante se fait exclure du conservatoire car elle est interdite aux étudiants de participer au tournage. Pas trop de regrets. Elle est belle, jeune et joue bien. Tout pour devenir rapidement une star. Elle tourne avec les compagnies les plus prestigieuses. Elekta Film, Meissner Film, Lucerna Film et UFA Prague, succursale de l'UFA Berlin, où l'actrice débutante est recommandée par la directrice d'UFA Prague. La jeune actrice part en Allemagne accompagnée de sa mère pour jouer dans le film Barcarola, réalisé par Gerhard Lamprecht. Elle incarne le rôle de la plus belle femme de Venise avec le célèbre acteur allemand Gustav Fröhlich comme partenaire. L'acteur est marié et père d'une petite fille, mais c'est le coup de foudre et une histoire d'amour commence. Le destin de la jeune actrice aurait pu être différent si un jour elle n'avait pas rencontré Joseph Goebbels. Na dvojici
Le ministre de la Propagande et de l'Information accompagne Hitler en visite officielle des ateliers EFA. Goebbels est fasciné par la jeune femme et en tombe amoureux. Pour l'instant, Lida est avec Fröhlich, qu'elle considérera jusqu'à la fin de sa vie comme son plus grand amour. L'actrice inconsciente ignore encore que l'on n'échappe pas à un Goebbels, de 17 ans son aîné. L'un des personnages les plus sinistres de la Deuxième Guerre atteint toujours son objectif. Le ministre Joseph Goebbels, dangereux et vindicatif, est un homme frêle, petit, avec un pied beau. Malgré tous ses handicaps, il est fascinant par son charisme et son intelligence incontestable. Il est marié et déjà père de 3 enfants. Il commence son jeu par inviter le couple Barova-Fröhlich à différentes occasions et même dans sa villa. La vie suit son cours. Lida n'arrête pas de tourner. Elle jouera dans des dizaines de films avant que son destin ne tourne au drame. Joseph Goebbels devient insistant. En début janvier 1937, l'actrice succombe au charme du bras droit d'Hitler et devient sa maîtresse. En cette période, la Metro-Goldwyn-Mayer est à la recherche de nouveaux talents en Europe. Un des représentants de la société hollywoodienne contacte la jeune actrice pour lui proposer un contrat très intéressant, une garantie de tourner 4 films par année pendant une période de 7 ans avec un cachet de 450 000 dollars. Lida reste indécise. La proposition est alléchante. Mais il y a le redoutable docteur Goebbels. Une carrière prometteuse tombe à l'eau. Le drame ne se fait pas attendre. L'amour entre Lida Baharova et le ministre de la Propagande est passionnel, destructif et fort, à tel point que Goebbels demande au chancelier du Reich de le destituer et de le nommer ambassadeur au Japon. Goebbels suggère également le divorce avec sa femme Magda. Adolf Hitler pique une crise et refuse net. Il ordonne au ministre de la Propagande de se réconcilier avec sa femme. Les intérêts du Reich passent avant les sentiments d'un homme politique. Goebbels, la mort dans l'âme, est obligé d'accepter les conditions. Pour Lida Baharova, les conséquences de cette relation sont encore pires. Interdiction de tourner en Allemagne et de se manifester en public lors des occasions officielles. L'actrice retourne au protectorat de Bohême-Moravie, où elle ne travaillera que sur un nombre restreint de films. Au début des années 40, l'actrice incarne le rôle principal dans La Fornarina, un film d'Enrico Guazzoni, et dans L'Hippocampo, le rhinocéros, de Vittorio De Sica. La fin de la guerre approche. Lida Baharova sent bien que la situation est tendue. Elle quitte la Bohême en avril 1945 avec un couple allemand pour fuir en Autriche. Lida y passera quelques mois sous la surveillance et les interrogatoires de la CIC, unité américaine de contre-espionnage. Finalement, elle est ramenée à Prague par l'unité tchéco-américaine centrée sur la recherche des criminels de guerre en fuite. L'actrice tant admirée devient un objet de haine. Elle se retrouve en prison avec les pires criminels. Sa mère succombe à une crise cardiaque au cours d'un interrogatoire en octobre 1945. Sa sœur Zorka, également actrice, se suicide en mars 1946. Elle est innocente, n'a jamais fait de mal et était toujours en contact avec les artistes d'avant-garde. Mais elle est la sœur de l'ex-maîtresse de Joseph Goebbels. Après 6 mois de détention, Lida Baharova est remise en liberté. La vie de l'actrice est triste. Il lui est interdit de tourner et de toute la famille, il ne reste que le père, amputé d'une jambe suite à une infection. Finalement, Lida va fuir en Autriche avec son mari, dont elle divorcera plus tard. Elle s'établit à Salzbourg et épouse le médecin Kurt Lundwall, un homme très en vue, expert renommé et président du Rotary Club. Elle restera avec lui jusqu'au décès du docteur en 1972. L'actrice a encore pu faire une carrière assez prestigieuse, surtout dans la cinématographie espagnole ou italienne. Dans les années 50, elle joue par exemple le rôle principal dans le film « I Vitelloni », ce qui veut dire « les batteurs de pavés », réalisation Federico Fellini. La célèbre actrice, dont l'un des nombreux amants était également l'acteur français Charles Boyer, est décédée à Salzbourg le 27 octobre 2000. L'émission de Radio Prague en langue française se termine, chers auditeurs. Toute l'équipe vous remercie de votre attention et nous restons toujours prêts et ouverts à vos idées et suggestions.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz.